Alors aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'observation de l'Union européenne a été mise en place, c'est-à-dire qu'on a plus de 20 observateurs qui ont été déployés sur le territoire du Libéria. Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs, tels que la Commission nationale des élections, tels que la Cour suprême, mais aussi des candidats des plus grands partis que nous avons rencontrés. Donc on a rencontré M. Bocaille, on a rencontré M. Wahé, on a rencontré Brunskin et d'autres candidats. Où le message qui était donné par ces candidats était que tous œuvraient pour un processus électoral en paix, sans violence. Et je pense que c'est important que les leaders politiques donnent ce message à leurs fans, à leurs électeurs, parce qu'on sait que en général, les électeurs suivent ce que les leaders demandent en matière de comportement. Donc je pense que c'est une première chose qu'on peut dire. Alors, il y a des choses positives qui ont été reprises par l'ensemble des leaders politiques, telles que le fait d'avoir mis en place des organisations, telles que la NEC, National Election Commission, ou la Cour suprême. Des choses plus négatives ont été mises aussi sur la table, comme le code de conduite, qui semble être parfois ambigu par rapport à la Constitution, sur l'éligibilité des candidats, par exemple. Et donc, il y a là des risques qui sont ouverts, des brèches qui sont ouvertes par rapport à la validation de certains candidats dans le processus électoral. Donc, il y a des choses positives qui sont données, il y a des choses négatives. Notre rôle est d'observer comment le Libéria respecte les engagements qu'il a pris dans les différents traités internationaux en matière d'organisation démocratique. Et donc, le rôle de l'Union européenne n'est pas de certifier ou de valider des élections, mais au contraire de s'inscrire dans un process démocratique au niveau du Libéria, voire de recommander un certain nombre de choses. Donc, nous ne sommes pas là pour invalider ou pour valider, ce sont les institutions nationales qui doivent le faire. Mais nous sommes là effectivement pour identifier quelles seraient les difficultés majeures qui ont été rencontrées dans le cadre de ces élections.
Oui, mais pourtant, Madame la députée, oui,
Oui.
pourtant, Madame la députée, l'ex-gloire du football, hein, libérien, George Weah, craint des fraudes comme ce fut le cas en 2005 et 2011.
Et alors justement, ce que M. Weah a dit, c'est qu'il faut mettre en place des dispositifs pour identifier si oui ou non il y a eu des problèmes. Et ça, je pense que c'est par exemple le rôle des observateurs locaux et des observateurs de parti qui, eux, sont déployés dans tous les bureaux de vote, de pouvoir accompagner effectivement ce vote. Et puis, si effectivement il y a des difficultés, c'est le rôle des instances nationales aussi de pouvoir défendre les partis qui estiment ne pas avoir été
Mais
respectés
comme
dans
dans
leur
plusieurs
programme.
autres pays, est-ce que vous ne craignez pas que ces organes chargés d'organiser ces élections puissent être inféodés au régime sortant?
Alors aujourd'hui, tous les candidats que nous avons rencontrés ont dit d'une part qu'ils estimaient le travail qui avait été réalisé jusque maintenant, même si ils ont pour certaines craintes par rapport à cette organisation. Mais aucun candidat aujourd'hui n'a remis en question l'intégralité du dispositif. Et donc, il est toujours possible, comme dans tout pays, de demander, de déposer plainte par rapport à l'organisation d'une élection. Et c'est ce que Wea dit dans son discours, c'est que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, il déposera plainte concernant ces différentes choses. Évidemment, il peut y avoir, comme je le disais, quand il y a une inconsistance entre un code de conduite d'un côté et la Constitution de l'autre, il pourrait y avoir là des ambiguïtés, et c'est ce que nous devrons observer dans le cadre de ces élections.
Donc le précédent au Kenya peut servir d'exemple, hein, au Kenya, au Libéria.
Alors justement, c'est ce que je dis par rapport au Kenya. Malgré le fait que des organisations internationales ont estimé que les élections étaient des élections faites dans le respect des lois kényanes, eh bien, la Cour suprême a contesté les élections. Ça prouve bien l'indépendance et l'autonomie des outils nationaux pour valider ou ne pas valider des élections. Ce n'est pas parce qu'une communauté internationale dit que des élections se passent dans un environnement, je dirais, correct, que le pays est tenu de respecter ce que disent les observateurs internationaux.
Est-ce que ça n'a pas été un camouflet pour l'Union européenne dans le cas du Kenya ?
Non. Alors, moi, je pense que, et ce serait intéressant, et je pense que personne n'a lu le rapport intermédiaire que la Commission, que l'Union européenne avait formulé. L'Union européenne avait formulé un certain nombre de critiques et estimé que, malgré ces critiques qui étaient formulées, l'opposition pouvait effectivement déposer un certain nombre de demandes, mais que, de manière générale, nous pourrions reconnaître que ces élections ne s'étaient pas faites avec des fraudes manifestes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande de la part de l'opposition par rapport à un mécanisme qui est le suivi informatique des données, ce sur quoi la communauté internationale n'avait pas le pouvoir d'interroger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les observateurs internationaux n'ont pas un pouvoir d'enquête. Ils ont juste un pouvoir d'observation, je dirais, visuel, quantitatif et visuel. Les candidats nationaux ont la possibilité de déposer plainte et de demander aux organes de faire une enquête.
Oui, mais dans la plupart du temps, Madame la députée, dans la plupart du temps, les missions d'observation de l'Union européenne sont critiquées par les opposants, puisque la plupart de vos rapports sont en faveur du pouvoir sortant.
Non, alors, encore une fois, il ne faut pas se méprendre sur l'objectif d'une mission d'observation électorale. La mission d'observation électorale n'est pas là pour valider ou invalider des élections. C'est la méprise qui est faite concernant ces observations électorales. Ces observations électorales sont là pour donner un certain nombre d'indicateurs à tous les les acteurs en présence. Et sur base de ces indicateurs, les acteurs peuvent se saisir auprès de leur structure pour avancer. Alors, bien entendu, quand il y a des défauts manifestes, et c'était par exemple le cas du Burundi, la mission d'observation électorale au Burundi
et même au Gabon
a décidé de se retirer du processus d'observation parce qu'elle n'était pas en mesure de faire l'observation. Et donc, je pense que quand on est en mesure de faire l'observation, on est en mesure de donner un certain nombre d'indicateurs pour lesquels les acteurs se saisissent de ces indicateurs. Quand on n'est pas en mesure de faire l'observation, on peut se retirer de la mission d'observation électorale, c'est-à-dire ne pas dire ni du bien ni du mal, c'est-à-dire nous ne sommes pas en mesure de faire ces observations électorales de manière indépendante, de manière complète. C'est ça l'observation électorale. Ce n'est pas la validation ou l'invalidation du résultat des élections. Cela appartient aux acteurs nationaux et locaux de faire le nécessaire pour valider ou ne pas valider ces élections.
Ouais. On se rappelle qu'en décembre 2016, la mission d'observation de l'Union européenne au Gabon a conclu des irrégularités manifestes à l'issue de la présidentielle d'août 2016. Mais depuis lors, le président Bongo est là et il n'y a eu aucune suite judiciaire.
Ça vous montre la situation inverse du Kenya. Ça vous montre que le pouvoir de décision reste au niveau de l'État. Et ce n'est pas la communauté internationale qui décide d'une situation dans un État tel souverain. Vous avez cité le Gabon, je vous cite le Burundi, M. Nkurunziza est toujours là, même s'il y avait une fraude manifeste par rapport à l'organisation de ces élections. Et donc, nous, notre objectif, c'est de donner les outils nécessaires aux acteurs pour pouvoir poursuivre le processus démocratique. Mais nous ne sommes pas là pour nous remplacer, nous substituer aux organes nationaux.
Le 23 novembre 2005, Ellen Johnson Sirleaf a été donc élue présidente démocratiquement, mettant fin à plusieurs décennies donc de guerre civile. Est-ce que vous avez constaté que le débat politique est fécond pendant cette campagne électorale ?
Alors oui, parce qu'il y a un multipartisme très grand. Il y a plus de 20 partis qui sont reconnus effectivement par rapport à ces élections. Donc il y a un pluripartisme qui est aujourd'hui présent sur le territoire du Liberia. Il y a, on peut dire aujourd'hui, une liberté d'expression par rapport à ces partis, même si les mécanismes d'espace médiatique sont assez complexes. Et par exemple, le fait de devoir payé pour être relayé sur la radio et télévision nationale libérienne est une des difficultés. Parce que si vous êtes un parti mieux doté, eh bien vous avez plus de capacité d'être relayé.
Donc tous les partis politiques n'ont pas accès aux médias d'État.
Et donc c'est cela rend l'expression difficile pour un certain nombre de partis, par exemple. Donc c'est une constatation que nous avons faite aujourd'hui dans le mécanisme, d'expression des partis. Mais tous les candidats que nous avons rencontrés et qui sont des candidats de l'opposition pour la plupart, sont des candidats qui nous disent que les choses ont bien entendu évolué, mais il y a encore des choses à faire.
Vous avez constaté des évolutions sur place ?
Alors, moi, personnellement, je n'étais pas au Libéria avant. Et donc, c'est très compliqué de faire une comparaison entre ce qui se passait avant les deux mandats de Mme Johnson. On peut dire qu'une certaine stabilité et paix dans le pays a été garantie par les mandats de Mme Johnson, mais la paix ne se limite pas à l'absence de violence. La paix, c'est aussi l'amélioration des conditions des personnes vivant au Libéria. Et aujourd'hui, les indicateurs économiques de pauvreté, par exemple, sont assez inquiétants au Libéria. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés sur le prix mondial des ressources qui a fait que les recettes du budget du Libéria ont diminué. Il y a eu, bien entendu, la crise Ebola. Tout ça n'a pas aidé le gouvernement, mais en même temps, je pense qu'il y a un gros travail à réaliser en matière de redistribution et d'organisation de ces redistributions des richesses auprès des populations qui, aujourd'hui, il faut le dire, en matière de taux d'alphabétisation, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'infrastructures, il y a très peu d'infrastructures au Libéria, eh bien, on peut dire qu'il y a là un défi majeur pour le prochain gouvernement et la prochaine majorité.
Une question indiscrète, hein, Marie Arena. Est-ce que vous savez qui va succéder à Mme Sirleaf ?
Et ça, ce sont les électeurs du Libéria qui le décideront. Et donc, ce n'est pas à une instance, quelle qu'elle soit internationale ou nationale, de prédire le résultat des élections. Il y a des élections, nous voulons qu'elles se fassent de manière dans la paix, donc ça c'est ce qu'il y a de plus important, mais aussi dans la transparence, dans la communication auprès des électeurs. Et ce n'est qu'au terme de ce processus qu'on pourra voir qui sera le candidat qui sortira de ces élections.
Et Georges Weah, l'ex-gloire du football libérien, se présente pour la troisième fois. Et si cette fois-ci, hein, il n'arrivait pas ou il n'accédait pas à la présidence, vous ne craignez pas que ses partisans descendent dans les rues ?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la parole des leaders politiques est importante. Et je pense que M. Weah a clairement dit qu'il voulait que ces élections se fassent dans la paix et qu'il reconnaîtrait les résultats électoraux. Je pense que c'est important de pouvoir avancer dans ce sens. Bien entendu, M. Weah n'est pas prêt à accepter la fraude et je pense qu'il est légitime de mettre en place tous les dispositifs qui permettraient d'identifier le non-respect du processus électoral et son droit de le faire, et qu'il doit le faire dans le cadre des institutions qui aujourd'hui sont mises en place au Libéria.